الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، avant même d'entrer dans le vif du sujet, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que cette fatigue-là qu'on ressent tous et qui est tout à fait naturelle et normale, on puisse la retrouver dans la balance de nos bonnes actions. On lui demande de nous permettre de faire partie des gens qui ne regretteront pas de s'être fatigués pour Allah subhanahu wa ta'ala. Connaissez-vous quelqu'un qui a ressenti plus de fatigue que le prophète alayhi salat wa salam? Connaissez-vous quelqu'un qui a souffert plus que les sahaba, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum? Et quel a été les effets ou l'effet positif? C'est qu'aujourd'hui on est en train de parler d'eux. Ce n'est pas gratuit, ça. Aujourd'hui, on les aime. Aujourd'hui, on cherche à les prendre pour modèle, à les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fatigués pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque minute que tu passes dans ton hajj, tu dois en profiter. Et c'est un grand bien de pouvoir trouver des réunions comme ça, des assises, malgré la fatigue, dans lesquels tu patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça fait partie du bonheur, de la joie. Sa'ada. Sa'adatul insan. Fi hadhihi al-hayat al-dunya. Dans cette vie d'ici-bas. Kull wahid minna yuhibbu sa'ada. Chacun d'entre nous, il aime la joie. Il veut le bonheur. Il veut réussir. Personne, hatta min al-hayawanat, même parmi les animaux, tout le monde veut réussir. Et كل واحد منا اذا كان في مشكله في حزن في ضيق يشعر في صدره بضيق صدره ضيق لا يتنفس. Chacun, quand il a un problème, quand il a une difficulté, il ressent que sa poitrine se serre. Je dirais qu'il n'arrive pas à respirer. Il se sent mal. Et il veut se délivrer de ça. Il veut être heureux, réjoui, apaisé. Et tout le monde recherche ça, et c'est tout à fait normal. Al-qalb fi sadrik, le cœur dans ta poitrine, yumkin an yakuna ka al-badan aw al-juthha, juthat al-mayyit fi al-qabr. Le cœur dans ta poitrine peut tout à fait être comme le cadavre dans la tombe. Et tu vas vivre, la personne concernée va vivre comme ça et va ressentir qu'elle est morte alors qu'elle est vivante. Elle va ressentir qu'elle est morte et elle va avoir l'impression que sa poitrine, c'est une tombe. Sa poitrine est une tombe parce que le cœur, il est mort. Sadruhu kalqabr lianna alqalb mayyit مدفون في صدره. Le cœur est mort, il est enterré dans sa poitrine. فما هي الأسباب التي تزيل هذا؟ Quelles sont les causes qui enlèvent? Quelles sont les causes qui que le cœur se sente bien? ما هي أسباب انشراح الصدر؟ أسباب السعادة. Les causes de l'épanouissement. Les causes qui font élargir ta poitrine au point où tu la sens comme une montagne. Et elle est remplie que de bonnes choses, que de bonheur. Et rien, aucun mal ne peut atteindre cette poitrine. La première chose, la première chose, et c'est la base de tout, c'est la chose principale. Elle va t'amener le bonheur, l'épanouissement, la réjouissance. أول شيء يجلب في صدرك السعادة والفرح والراحة راحة البال راحة القلب le repos de l'âme le repos du cœur le repos de la poitrine هو أن يكون بينك وبين الله عز وجل علاقة qu'il y ait entre Allah et toi un lien. Alaqa. Fa antakuna qariban min Allah azza wa jal. Que tu sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi alaqa bi tawhidillah takuna. Et ce lien-là, il se manifeste avec ta reconnaissance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. فَأَعْظَمُ مَا يَشْرَحُ الصَّدْرِ تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى. La chose qui élargit le plus la poitrine, la chose qui élargit le plus la poitrine, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal que tu vas réaliser et concrétiser dans ton cœur. Cette unicité-là va te permettre de connaître Allah, de savoir qu'il est seul et unique. Il n'a aucun égal. Rien ne lui est similaire. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui est similaire. Il n'a aucune similitude avec quiconque. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Comment cela ne va-t-il pas élargir toi ta poitrine de savoir que tu as un Seigneur auquel rien n'est similaire? Personne ne ressemble à Allah. Personne n'est comme Allah. هو الرزاق سبحانه وتعالى. C'est lui qui donne la subsistance. هو الشافي. La guérison. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Il guide qui il veut vers le droit chemin. ويضل من يشاء. Il égare qui il veut. وَإِذَا هَدَى هَدَى بِرَحْمَةِ وَإِذَا أَضَلَّ أَضَلَّ بِعَدْلٍ. Et lorsqu'il guide, il guide par miséricorde. Et quand il égare par justice. أَسْمَاؤُهُ كَامِلَ صِفَاتُهُ جَمِيلَ صَاحِبُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَ وَالصِّفَاتِ الْعُلَى. Ça là, de connaître ça, que ton Seigneur est parfait par ses noms, par ses attributs. Et développons-le d'ailleurs, plutôt que de se contenter de ça. Parce que c'est la meilleure des sciences. La meilleure des sciences, c'est que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala. Un pieux prédécesseur a dit, Masakinu ahlu hadhihi dunya. Qu'est-ce qu'ils sont pauvres les gens attachés à cette vie d'ici-bas? Kharaju minha wa lam yadhuqu atyab ma fiha. Ils ont quitter cette vie sans avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Il a vécu 10 ans, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans même si tu veux. 80 années pendant lesquelles il est sorti, rentré, il a commercé, il a travaillé, il s'est fatigué, il a voyagé, il a acheté, il a vendu, il a mangé, il a dormi, il est tombé malade, il s'est soigné. Il a aimé des gens, il a détesté des autres gens. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Il a eu plein de soucis, plein de peines, des années entières qui se sont écoulées. Et à la fin, il sort de ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses qui s'y trouvaient. C'est la pire. C'est le plus grand des pauvres, lui. Quelqu'un qui a entendu ça a dit, وَمَا أَطْيَبُ مَا فِيهَا. Et quelle est la meilleure chose qui se trouve dans ce bas monde? Et ça, c'est la question que tu dois te poser. Tu cherches à savoir combien gagner dans tel commerce. Tu cherches à savoir comment réussir dans telle et telle activité. au point de faire des calculs, au point d'être doué en informatique, parce que tu veux, avec tes calculs, connaître en détail tes intérêts. Tu as oublié ton plus grand intérêt? Lui, il a dit, et c'est quoi la meilleure chose qui se trouve dans cette vie d'ici-bas? Fais comme si c'était une question que je te pose là. Et dis-toi dans ta tête, essaie de répondre dans ta tête. Puis quand tu vas écouter la réponse, si elle est correcte, remercie Allah. Si elle n'est pas correcte, remercie Allah qui t'a permis de savoir. Et donc, de faire les causes pour qu'elle devienne réponse, pour que cette réponse devienne correcte dans ton esprit. Quelle est la meilleure chose qui se trouve dans cette dunya? Il répond, قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. Et on va développer ces quatre choses-là. Il répond, c'est de connaître Allah, de se sentir proche de lui, un sentiment de proximité avec Allah, de l'aimer et d'avoir une envie ardente, une envie forte de le rencontrer. Ça là, c'est la liberté. Ça là, c'est la réussite. Ça là, c'est la base du bonheur. Plus tu développes ces points-là, plus ta poitrine, elle va s'élargir, tu vas penser que tu as une montagne sous ta tête, alors que c'est la petite poitrine qui est là. Mais elle est tellement large parce qu'elle est remplie de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu te sens épanoui. La première chose, c'est que tu connaisses Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Allah? Que tu saches qui il est. Parce qu'il s'est présenté à toi dans son livre. Allah a des noms, des attributs. Il fait des actions. Il t'informe de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Plus tu vas étudier tous ces points-là, plus tu vas connaître Allah Azza wa Jalla. Et plus tu vas le connaître, plus tu vas te rendre compte de sa sagesse, de sa splendeur, de sa perfection, et donc de son unicité, et que nul ne lui est similaire. Wahdahu la sharika lah. Il est unique, il n'a aucun associé. Subhanahu wa ta'ala. Awwalun bil ibtida. Akhirun bil intiha. C'est le premier sans début et le dernier sans fin. C'est lui qui fait devancer qui il veut et ce qu'il veut. Et c'est lui qui met à l'arrière qui il veut et ce qu'il veut. C'est lui qui est au-dessus de tout et duquel personne ne peut se cacher, du fait qu'il est proche de chacun de ses serviteurs, de la connaissance qu'il a d'eux, de leur état. Là, on est combien ici? On est à peu près 40. Chacun est incapable de savoir à ce moment même quel est le contenu du cœur de son voisin. Impossible. Celui qui vous parle là, vous n'êtes pas capable de savoir s'il est sincère ou non. Et qu'est-ce qu'il est perdant s'il n'est pas sincère? Wa rabbil Ka'ba. Qu'est-ce qu'il est perdant s'il parle pour les gens et s'il ne parle pas pour Allah? Subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, un jour a traité une question scientifique et religieuse en la présence de nombre de ses élèves. Question qu'il a bien maîtrisée. Si bien que ses élèves étaient admiratifs de leur chair. Un autre jour, il y a eu une autre assise avec des gens de science qui ont traité de la même question. Chacun a traité le sujet, sauf Ibn Rajab, qui s'est tu. Ses élèves n'attendaient qu'une chose. Car voyant que les autres gens de science n'ont pas donné à la question son plein droit, scientifiquement parlant, n'ont pas assez développé le sujet, et sachant que leur cheikh connaissait ce sujet en détail, il n'attendait qu'une chose, qu'il s'exprime. Il n'a pas parlé. Il s'est tu. Et lorsque l'assise est terminée et qu'ils ont rebroussé chemin, ils lui ont dit, on sait que tu connais cette question. Tu aurais pu la traiter et tu étais beaucoup plus doué que. Vous savez ce qu'il a répondu? Vous savez ou pas? Il a dit, la première assise dans, où j'ai parlé là, c'est Allah qu'on voulait. On cherchait Allah subhanahu wa ta'ala. Cette deuxième assise là, c'est pas Allah qui a été voulu. Vous croyez que la science, elle se jette dans un endroit où on ne veut pas Allah et sa satisfaction, subhanahu wa ta'ala? Regardez. Il parle pour Allah, il se tait pour Allah. Parce qu'il connaît Allah. Et la connaissance d'Allah, azza wa jal, et de te rappeler que c'est lui qui t'a créé. Il a pris soin de toi, subhanahu wa ta'ala, avant même que tu ne viennes au monde. Alors que tu n'étais qu'une goutte du liquide insignifiant, éjecté dans le ventre, dans l'utérus de cette femme qui t'a porté pendant 9 mois. Elle avait froid, elle avait chaud, elle tombait malade. Et toi, à chaque fois, tu restais dans la même température. Elle est malade, elle sent le froid, enceinte, et le bébé dans le ventre, tout est réglé pour qu'il soit à la même température, pour qu'il progresse étape par étape, pour qu'il se développe. Tu n'étais rien. Tu n'avais même pas encore l'âme insufflée dans ton corps, qu'Allah commençait à déverser sur toi tous ses bienfaits. Subhanahu wa ta'ala. Et ça a duré étape par étape pendant 9 mois. Puis tu es né. La première chose que tu as fait, tu as poussé un cri. Pourquoi tu as poussé ce cri? Pour plusieurs raisons parmi lesquelles tes poumons qui commencent à respirer cette ni'ma de l'oxygène qu'Allah te donne. Pour que tu puisses encore te développer et encore grandir. Et puis là, d'un coup, automatiquement et tout naturellement, tu as un besoin. Et c'est quoi ce besoin? C'est le sein. Cette femme-là, elle te prend, elle te colle, et tu commences à pomper. À ce moment-là, tu n'as même pas de raison. Tu n'es pas conscient qu'Allah est encore en train de te combler, subhanahu wa ta'ala. Il te nourrissait par un moyen, par une voie. C'est le cordon ombilical. La ni'ma d'Allah, azza wa jalla. Tu sors du ventre de ta mère, maintenant il te nourrit par deux voies. Les deux seins de ta mère. Tu prends. Et qu'est-ce qui se passe? Tes dents commencent à pousser. Regarde Allah ce qu'il fait là. Il te prépare à manger ses bienfaits. Tu ne raisonnes même pas. Les dents commencent à pousser. Et tu vas commencer tout doucement à prendre des choses un peu liquides. Puis des compotes et j'en passe. Jusqu'à ce que tu vas commence à être capable de manger, de mâcher. Ensuite, tu vas commencer à marcher. Allah, il est en train de te pousser vers tous ses bienfaits. Alors que tu n'es même pas encore responsable. Tu n'as même pas encore la raison. Et tu grandis. Et tu pousses. Et tu pousses. Et tes cheveux poussent. Et tes ongles grandissent. Et ton corps prend forme. Et tu grandis. Les gens sont autour de toi, ils t'admirent. Il est beau ce petit. Il est mignon ce bébé. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ils sont en train de se rendre compte de la merveille qu'Allah est en train de faire? Ça demande de la science. De créer un enfant comme ça, de le développer, de le nourrir. Ça demande plein de choses. Ça t'apprend à connaître Allah. Tu vois la rahma d'Allah. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois la science d'Allah, le ilm, regarde la perfection. Tu vois la puissance d'Allah. Et tu apprends plein de choses et tu grandis. puis tu commences à marcher, à courir. Et tout est à ton service. Tu as des joies, tu as des occupations. Écoutez bien, parce que la suite est grave. Et gardez ce mot-là. La suite est grave. Tu commences à grandir. Tu jouis des bienfaits d'Allah. Tu te plains quand c'est trop. Tu te plains quand c'est pas assez. Tu te plains quand c'est trop froid. Tu te plains quand c'est trop chaud. Et autour de toi, on dit rien. On répond à tes demandes et à tes plaintes. Et on te donne ce que tu veux. Tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Tu commences à atteindre l'âge de la raison qui te permet de distinguer et donc de faire des choix. Tu deviens responsablement religieux. Tu deviens religieusement responsable. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire des choix dans ta vie. Et parmi ces choix-là, certains ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire ces choix-là, tu vas utiliser tous ces bienfaits qui t'ont permis d'en arriver là, pleinement inconscient. Tu vas faire des choix. Tu vas faire des choix. Tu vas suivre un chemin de ton plein gré et te voilà dans un péché, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah azza wa jal ne va pas te punir, ne va pas te reprendre, ne va pas te châtier, ne va pas t'infliger un châtiment, parce que parmi ces noms, Al-Halim. Et Al-Halim subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui ne s'empresse pas de châtier ses serviteurs, mais qui leur accorde plutôt un délai. Peut-être vont-ils revenir à lui. Allah Azza wa Jal a dit, Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah maintient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Et si les cieux et la terre venaient à s'effondrer, nul autre que lui après lui ne pourrait les retenir. Comme si quelqu'un se disait, mais pourquoi alors est-ce qu'Allah maintient les cieux et la terre? Innahu kana halim al-ghafura. Parce qu'il est halim et ghafur. Et le halim, c'est celui qui accorde un délai à ses serviteurs pour leur permettre, malgré leurs péchés, de se repentir. Et des fois, les péchés sont gravissimes. Et malgré ça, Allah te laisse un délai. Allah Azza wa Jalla a dit, Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. Ceux qui par le feu ont éprouvé les croyants et les croyantes. Une histoire connue où les croyants ont été jetés dans un feu à cause de leur foi. Ceux qui par le feu ont éprouvé les croyants et les croyantes. Thumma lam yatubu. Puis qui ne se repentent pas. Falahum adhabu jahannam. Ils auront le châtiment de la géhenne, du feu. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, Unzuru. Méditez sur ça. يحرقون عباد الله وهو يدعوهم الى الرجوع. Ils brûlent les alliés d'Allah et Allah les appelle à revenir et leur permet quand même de revenir. Ça, c'est la connaissance d'Allah que tu ne dois pas perdre dans ta vie. Tu ne connais pas la langue anglaise, c'est dommage, tu vas perdre plein d'opportunités. Tu ne connais pas telle activité. Tu ne sais pas ce que tu as raté. Tu ne connais pas telle chose. Ça, c'est les paroles des gens. Tu ne connais pas ça, tu ne sais pas ce que tu rates. Et où sont les gens pour dire tu ne connais pas Allah, tu ne sais pas ce que tu as raté? Où sont les gens pour dire ça? Pour dire que si tu passes une vie dans laquelle tu ignores qui est ton créateur, alors qu'il t'a fait manger ses bienfaits, il t'a fait jouir, il t'a comblé. Il a déversé sur toi ses bienfaits. Tu t'es rassasié et plus encore. Et avec tout ça, tu ne le connais pas. Tu crois que les bienfaits que tu as viennent de toi. Tu crois que tu es riche parce que tu travailles, parce que tu es intelligent, parce que tu es motivé. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'assignez donc pas à Allah des égaux, alors que vous savez Mujahid, rahimahullah, un des élèves des Sahaba dans le tafsir, a dit, هو الرجل يقول هذا مالي ورثته عن آبائي. Dans ce verset, il s'agit de l'homme qui dit de l'argent qu'il a, c'est mon argent, il vient de mes ancêtres. C'est ce qu'on appelle le tafsir bil mithal, l'explication du verset à travers un exemple. Le verset est bien plus vaste, mais des fois les salafs expliquent des versets du Coran à travers un exemple. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir plusieurs paroles. Pour le même verset, il y a un qui va dire ça veut dire telle chose, l'autre qui va dire ça veut dire telle chose. 3, 4 des imams du tafsir, on a l'impression qu'ils divergent. Ce n'est pas une divergence. Ils sont tous d'accord. Ils n'ont donné que des exemples pour illustrer le sens de ce verset. Donc, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala a tout gagné. Mais celui qui vit et qui cherche à tout connaître dans sa vie sans connaître Allah, il passe à côté de la plus grande des richesses. Qu'il ne se plaigne jamais s'il éprouve dans sa poitrine, s'il ressent dans son cœur qu'il est serré. Alors qu'il a en apparence tout ce que l'on pourrait vouloir. Et combien sont ces gens-là? Et tu n'as qu'à les interroger. Et tu n'as qu'à méditer sur la situation de beaucoup de gens. Qui en apparence ont tout ce que l'on voudrait avoir. Mais en intérieur, ça ne va pas. En intérieur, il manque quelque chose. Il y a un trou. Il y a un trou noir. Il y a un trou qu'on n'a pas encore réussi à combler et qu'on ne pourra jamais combler par Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, qu'on ne pourra jamais combler sans connaître Allah, sans établir un lien avec Allah, qui est la servitude al-ubudiyya. Tout à l'heure, notre frère Abu Talha hafidahullah nous parlait du délaissement des péchés et que des fois des gens sont habitués à des passions, à des désirs, à des péchés, desquels ils ont trop de mal à se détacher. À un point tel que pour certains, ils vont te dire « Wallahi, je ne peux pas arrêter ça. Je n'y arrive pas. » Écoutez la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit « Man taraka shay'an lillah, awwadahu Allahu khayran minhu. » Quiconque abandonne quelque chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « An-nafs, l'âme de la personne, إِذَا اَعْتَادَتْ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ صَعُبَ عَلَيْهَا تَرْكُهُ فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ إِلَّا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ » L'âme de la personne, quand elle s'est accoutumée à quelque chose, elle a l'habitude de faire quelque chose, on parle des péchés, des passions. Dans la majeure partie des cas, elle a du mal à s'en détacher. Sauf dans un cas. Sauf dans un cas. Quel est ce cas? إِذَا كَانَ هَذَا تَرْكُوْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Lorsque cet abandon se fait pour Allah. Interroge ceux qui consommaient ce qu'Allah a interdit. La cigarette, l'alcool, la drogue, et qui essayaient d'arrêter parce que ils estimaient que c'était pour eux un gâchis d'argent, ou encore parce que ça nuisait à leur santé, ou alors parce que ça leur donnait une mauvaise image. Ils se sont efforcés d'arrêter, ils n'ont pas réussi. Dès que la foi est entrée dans leur cœur, ces mêmes personnes-là, qui n'arrivaient pas, qui étaient convaincues qu'elles ne pourraient pas réussir, dès qu'elles iman, la foi est rentrée dans leur cœur, tout a changé. C'est devenu facile de délaisser, et c'est devenu un délice de délaisser. Et on a tous goûté à ça, dans une époque de notre vie, quand on a goûté le retour à Allah. qu'on a tellement savouré qu'on était à la recherche, qu'est-ce qu'on peut délaisser pour Allah? Et comme il n'y avait pas la hikma, il n'y avait pas la sagesse, il n'y avait pas le savoir-faire, il n'y avait pas la connaissance, on passait pour des gens durs. Il y avait une bonne intention, mais il n'y avait pas la connaissance, il n'y avait pas le savoir-faire. Mais le délice, il était là. Vous l'avez tous goûté, j'en suis sûr. J'arrête ça pour Allah, subhanahu wa ta'ala. J'abandonne ça pour Allah. Et là, qu'est-ce que tu sens? Tu sens un plaisir. Tout le monde est en train de te blâmer autour de toi. Tu as délaissé tel travail. Tu as abandonné tel métier, telle fréquentation, tel ceci, tel cela. Mais tu es fou. Et toi, tu es tout seul. Et tu te dis que ce sont ces gens-là qui sont tous fous. Et tu sens que tu as réussi à faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? La suite dans le hadith. Le prophète, alayhi salam, dit « Man taraka shay'an lillah » Quiconque abandonne quelque chose pour Allah, « Awwadahu Allahu khayran minhu » Allah lui remplace par quelque chose de meilleur. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit « Wal-iwad anwa'a » Et ce qu'Allah te promet en échange, lorsque tu abandonnes quelque chose pour lui, est de plusieurs catégories. Avant d'arriver à la suite, moi le premier, j'ai toujours cru en lisant ce hadith, jusqu'à lire la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, rahmatan wasi'a, que ça veut dire que si tu as de l'argent haram, il a 100 000 euros haram, il se dit, je les délaisse pour Allah, Allah me remplacera par mieux, donc j'aurai 120 000 euros halal. J'ai toujours cru ça, moi. Je les ai pas les 100 000 euros, mais en tout cas, j'ai cru ça. Donc, en fait, j'ai eu ni ça, ni ça, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai toujours cru. Tu délaisses une femme haram, Allah te ramène une belle femme halal. Allahu Akbar. Quand tu connais Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, wal-iwadu anwa'a. Ce qu'Allah te donne à la place, c'est de beaucoup de catégories, beaucoup de sortes. A'zamuha al-unsu billah. La plus grande de toutes les catégories de ce qu'Allah te donne en remplacement pour ce que tu as délaissé pour lui, c'est al-unsu billah. Tu sens dans ton cœur quelque chose. Wallahi al-azim. Le milliardaire n'a pas assez d'argent pour te le payer. Pas le milliardaire seul. Tous les milliardaires. Ils vont faire des réunions entre milliardaires, il faut qu'on trouve une solution pour lui acheter ça. Ils vont se fatiguer pour rien, ils n'auront pas assez pour le payer. Ça s'appelle l'unsu billah. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça se comprend avec le qalb. Ça se ressent avec la poitrine. Tu sens que tu es proche d'Allah. La terre tremble, les montagnes éclatent. Ça ne te fait rien du tout. Parce que tu sais que tu es proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est en crise. Tout le monde est angoissé, tout le monde est stressé, tout le monde est paniqué, tout le monde est en colère. Et toi, tu ne bouges pas, parce que tu sens que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu délaisses quelque chose pour plaire à Allah, pour plaire à celui qui t'a créé, pour plaire à celui qui t'a nourri, pour plaire à celui qui t'a abreuvé, pour plaire à celui qui t'a guéri, pour plaire à celui qui t'a guidé, pour plaire à celui qui t'a protégé, pour plaire à celui qui t'a déversé tous ses bienfaits, toi, la faible créature, lorsque tu délaisses quelque chose pour plaire à ce Seigneur qui est au-dessus du ciel, qui t'observe, qui t'écoute, qui te voit, qui t'entend, qui connaît l'intérieur de ta poitrine, lorsque tu délaisses et que tu te dis, cette chose-là, oh Allah, pardonne-moi, je l'abandonne pour toi. Quand Allah voit ça de toi, il envoie dans ton cœur un sentiment de proximité avec lui qui te rend imbattable. Aucun obstacle ne t'arrête dans ton cheminement vers Allah. Et le cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ne se fait pas avec un bagage et une belle voiture, non plus avec un train ni un avion, encore moins avec une compagnie humaine. Il se fait juste avec ton cœur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, « Wa sayru » Non, pas Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab, rahimahullah. Et c'est l'élève d'Ibn al-Qayyim d'ailleurs. Le cheminement n'est que le cheminement du cœur. Pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam prend Abdullah ibn Omar par les épaules et lui dit kun fi dunya ka annaka gharib wa abir as-sabil. Sois en sorte dans cette vie d'ici-bas d'être à l'image du voyageur ou de l'étranger ou du passager, du passant plutôt. Parce que ici ce n'est pas chez toi. Ici ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas ta demeure. Et l'étranger, c'est quelqu'un qui vit dans un endroit qui n'est pas chez lui. Un étranger n'est pas à l'aise jusqu'à ce qu'il retourne chez lui. Et le passant, c'est quelqu'un qui traverse un endroit, il n'a pas envie de s'arrêter dans cet endroit-là. Il veut arriver chez lui. Ibn Rajab, rahimahullah, explique ce hadith. Et parmi ce qu'il nous dit que le voyageur, l'étranger, le passant, il n'est pas à l'aise jusqu'à ce qu'il revienne chez lui. Et ça, c'est la situation du croyant. Le croyant, chez lui, c'est où? Je vous pose la question. C'est où chez lui? C'est le Jannah. La maison de base de l'homme, c'est le paradis. C'est de là qu'il vient. On est sur terre parce que Adam, alayhi salam, a désobéi à Allah, azza wa jalla. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam a désobéi à son Seigneur, il s'est donc égaré. Mais Allah lui a accordé le repentir et lui a pardonné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes ici sur terre. On est donc étrangers. On est donc des passagers, des passants encore une fois. Des passants. On n'est pas chez nous. Et chez toi, c'est où? C'est le Jannah. Ne perds pas la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car sinon, tu auras tout perdu. Celui qui ne connaît pas Allah ne connaîtra rien, même s'il croit tout connaître. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala connaîtra tout. Il connaîtra tout. Parce que la base de la science, c'est que tu connaisses Allah. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانًا عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Dans le Coran, il y a des paraboles. Les paraboles sont des comparaisons entre deux choses. Une qui n'est pas perceptible, qui relève d'un sens. La foi, c'est un sens. La proximité avec Allah, c'est un sens. L'amour d'Allah, c'est un sens. Ce n'est pas perceptible, c'est conceptuel. Allah Azza wa Jal nous appelle à des sens. Et pour qu'on puisse les comprendre convenablement, il nous propose des paraboles qui sont des comparaisons entre ce sens et quelque chose qui est sensoriel. Quelque chose que l'on peut percevoir, que l'on voit à l'œil nu, que l'on peut toucher, que l'on peut donc comprendre. Et en ce sens, Allah Azza wa Jal nous dit: est-ce que celui qui élève son édifice, sa construction, en se basant sur la piété envers Allah et la recherche de sa satisfaction, est meilleur? Ou alors celui qui élève sa construction sur le bord d'une falaise croulante, il s'en faut de peu pour qu'il croule dans le feu de l'enfer. Imagine-toi maintenant quelqu'un qui veut construire une maison. Et cette maison-là, il l'a construit dans une terre bien plate, sur des fondations qu'il a fixées fortement et stablement sous le sol. Puis il commence à travailler brique par brique. Qu'est-ce que vous pensez de cette fondation? Et qu'est-ce que vous pensez des étages qu'il va élever les uns au-dessus des autres? Ils vont être solides, ils vont tenir. Que pensez-vous maintenant d'une autre personne qui va fonder et qui va bâtir une construction sur le bord d'une falaise croulante? Un tremblement de terre, et qu'est-ce qui se passe? Tous ces efforts tombent. Et là, on vous dit que cette falaise-là, en dessous, il y a des flammes. Donc, non seulement sa maison se détruit, se casse, elle tombe, elle s'écroule, pour finir où? Les miettes, là, qui se cassent, elles finissent dans le feu. Il ne reste plus rien. Cette parabole, c'est la comparaison entre celui qui va bâtir ses actions, son cheminement vers Allah, sa religion, sur la connaissance d'Allah. Il sera comme celui qui a des bonnes fondations. Et l'autre qui va baser sa religion sur l'ignorance. Il va faire plein de bonnes actions, plein de bonnes actions. Et tu le vois que du jour au lendemain, il abandonne la salat. Ou alors, il ne l'abandonne pas, mais il la néglige. Il néglige la zakat. Allah lui fait manger de ses bienfaits. Et il se refuse de s'acquitter de l'aumône. Il est commerçant. Il est riche. Allah l'a épargné de la pauvreté de tant de personnes. Et il n'est pas reconnaissant. Il est ingrat. Et tu le vois qui fait des bonnes actions aujourd'hui et qui délaisse demain. Et nous, on pense que le remède, c'est juste de dire « Crains Allah, pourquoi tu ne pries pas, prie ?» Et quand on voit qu'il ne prie pas, « Subhanallah, je lui dis « Crains Allah, prie et il ne prie pas. » Parce que je ne sais pas comment prêcher à Allah. Je ne sais pas comment inviter les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais-lui connaître Allah si tu veux qu'il obéisse à Allah. Il comprendra pourquoi il doit délaisser cette chose-là. Il comprendra pourquoi il doit changer. Il doit se réformer. Parce que désormais, il connaît Allah. Il comprend qu'Allah l'a comblé de ses bienfaits. Il aime Allah. Donc, il va rechercher ce qu'Allah aime. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est envoyé dans un peuple qui enterre les filles vivantes, dont les riches pillent et volent les biens des pauvres, entre lesquels il y a des guerres, ils s'entretuent, ils se tuent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive et leur dit « Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu » Ô vous les gens, dites « La ilaha illallah », reconnaissez l'unicité d'Allah et vous allez réussir. Et c'est ce qu'Allah lui a demandé de faire. Avant même de leur dire « Arrêtez d'enterrer les filles vivantes, arrêtez de consommer l'alcool qui vous enivre, arrêtez de piller les biens des faibles, arrêtez de vous entretuer. Première étape, je vais vous présenter qui est Allah. Car quand vous allez connaître Allah subhanahu wa ta'ala, dès lors qu'un ordre va être révélé, vous allez aussitôt l'appliquer. Et c'est ce qui s'est passé. Les compagnons se sont fait éduquer par le prophète alayhi salatu wa salam sur la connaissance d'Allah. Une fois qu'ils ont connu Allah, Allah a révélé les ordres et les interdits. Les femmes des compagnons sont en train de labourer. Elles n'ont pas le hijab car ce n'est pas encore obligatoire. Elles ont des paniers et elles ramassent ce qu'il y a dans la terre, elles mettent ça dans le panier. Allah Azza wa Jal descend en verset. Ya ayyuhan nabi, ô toi le prophète, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants يدنين عليهن من جلابيبهن de rabattre sur elles leur grand voile jusqu'à la fin du verset. On fait l'annonce aux femmes des sahaba qui sont en plein travail avec les paniers remplis. Allah vient de révéler un verset, vous devez vous voiler. Elles font quoi? Elles vident les paniers. Elles utilisent comme voile temporaire, elles courent chez eux pour aller se voiler. Allah Azza wa Jal interdit l'alcool à trois étapes successives. La dernière, c'est la définitive. Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansab rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Certes, le vin, les jeux de hasard et l'ansab, c'est une pratique de l'époque de la jahiliya, qui contient une notion de shirk. Toutes ces choses-là sont une abomination du diable. Abandonnez-les. Qu'est-ce qu'ils font les sahaba? Ils prennent les tonneaux de vin, ils les vident. Et les sahaba décrivent la ville de Médine, les ruelles de la ville de Médine, comme des ruisseaux de vin. Application stricte. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله عز وجل dit, dans le sens du verset, la parole des croyants, quand ils sont appelés à Allah et à son messager, pour qu'ils jugent entre eux, n'est qu'une seule parole. Ils disent, nous avons entendu, nous avons obéi. Et ceux-là vont récolter le succès. Ils obéissent immédiatement. Ils étaient prêts à exploser tous les obstacles. Ils étaient prêts à réduire en miettes toutes les montagnes devant eux. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Et combien de petits groupes peu nombreux ont réussi à vaincre des grands groupes nombreux par la permission d'Allah. Ils arrivent à la bataille de Uhud. Au début, ils sont 1000 avec 300 hypocrites infiltrés en eux qui se parlent discrètement, retire-toi, 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 et se retrouvent à 700. Et en face, il y a 3000 hommes contre 700 musulmans et 3000 de Quraysh et des tribus qui se sont alliés à eux pour se venger de la bataille de Badr dans laquelle ils ont essuyé une énorme défaite. 700 contre eux, contre 3000. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils obéissaient à Allah, leur accordait le secours et la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah azza wa ta'ala. Quand tu connais Allah tabaraka wa ta'ala, tu es épanoui, tu es réjoui, tu es heureux. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit: La ubali, akuntu fima uhibbu am fima akrah. Je me fiche de savoir si je suis dans une situation que j'aime ou que je n'aime pas. لأني لا أدري هل الخير لي فيما أحب أم فيما أكره. Car je ne sais pas si mon bien, mon intérêt est réellement dans ce que j'aime ou dans ce que je n'aime pas. Tant que je suis dans quelque chose qui a été voulu par Allah, je suis réjoui. Quelqu'un qui est comme ça, vous pensez qu'il peut prendre des cachets pour dormir, pour trouver le sommeil? Pensez qu'il a besoin d'aide? Pensez qu'il a besoin de consulter pour s'épanouir, pour se sentir bien? Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il est allongé comme un bédouin, par terre. C'est le gouverneur des croyants. Au sol, il y a un grand des koufars qui arrive et qui dit: je veux voir ce Omar qui fait peur à tout le monde. Il est où? Il est où son château? Elle est où sa grande maison? Il cherche partout comme ça. Il voit un homme allongé sur le pied d'un arbre. C'est pas lui, c'est pas possible. Il va chercher partout. Il lui dit, c'est lui. Il regarde comme ça, il voit un homme allongé par terre. Pas de million avec lui, pas de château, pas de garde, rien du tout. Murtah, munsharih as-sadr. Il est apaisé, il est épanoui. Pourquoi? Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu connais Allah, Azza wa Jal, tu es épanoui. C'est la première cause qui te rend une poitrine large. Si large qu'elle ressemble à des montagnes. Et toi, tu la ressens, cette montagne-là, si Allah te comble de cette faveur-là. Cette vie est courte. Ne passons pas à côté de l'essentiel. C'est bien d'avoir des activités, des objectifs, de chercher davantage à s'améliorer et à progresser. Mais si tu es commerçant dans cette vie d'ici-bas et tu recherches à gagner, alors sache qu'il y a un commerce bien plus fructueux et dont les rentes et les bénéfices sont bien plus juteux que ce que tu pourrais t'imaginer. Il y a un commerce. Il y a un acheteur dans ce commerce-là. Il y a une marchandise dans ce commerce-là. Et il y a celui qui fait le contrat. Et tout ça, c'est dans des textes. Le commerce, c'est ta religion. Allah Azza wa Jal a dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, pour vous qui avez eu la foi, hal adullukum ala tijara tunjikum min adabin alim. Voulez-vous que je vous oriente vers un commerce qui vous prémunit d'un châtiment douloureux? Tu'minuna billahi wa rasuli. Ayez donc foi en Allah et son messager. C'est ça le commerce. C'est ça le vrai commerce. Tu'minuna billahi wa rasuli. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et vous luttez pour Allah. Et vous luttez pour Allah avec vos personnes et vos biens. Cela est meilleur pour vous si seulement vous savez. Dans ce verset, on apprend donc que ta religion est un vrai commerce. Un vrai commerce. Et si tu n'aimes pas faire faillite dans la dunya, au point justement de ne pas trouver le sommeil, parce que tu as perdu ces centimes qui te font rêver, alors, à plus forte raison, tu dois faire attention à ne pas perdre ce commerce qui est ton lien avec Allah. Dans ce commerce-là, il y a une marchandise. D'où viennent ces propos? De la tête de celui qui vous parle? De la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit, Ala inna sil'atallahi ghaliya. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Ala inna sil'atallahi riyal jannah. N'est-ce pas que la marchandise d'Allah, c'est le paradis? Juste les frères. Quelques minutes et n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? Ça, c'est le commerce et ça, c'est la marchandise. Qui est l'acheteur? Et qui est le vendeur? Allah Azza wa Jal répond. Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté des croyants leur âme et leur promettre et leur a promis en échange le paradis. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Ils combattent dans la voie d'Allah jusqu'à la fin des versets. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base du bonheur. C'est le fondement, le pivot, le moteur de ta vie. Je ne vous tiens pas ces propos, mes très chers frères, comme cette personne qui prétend avoir goûté à ça. Car entre cette chose-là et moi, il y a le même espace qui sépare le ciel et la terre. Mais quand je vous dis ces propos-là qui sont pour moi une lourde épreuve, je me dis que peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire que quelqu'un ici va entendre ça et l'appliquer, et peut-être que par ça, il va me sauver de tous ces péchés que vous ignorez. Et desquels on demande à Allah le pardon, subhanahu wa ta'ala. J'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on va se contenter de ça.